Il m'a demandé voir s'il fallait allumer les lumières. Mais je crois que le bon Dieu a compris. Il a lu les informations de foi et partage, puis qu'aujourd'hui, on parlait de Jésus, lumière. J'avais même pensé, la conférence n'est pas commencée, c'est pas grave, ça ne réussit pas. J'avais même pensé faire commencer avec un geste visuel, d'éteindre toutes les lumières, puis ensuite des allumer, parce qu'on va parler, on ne peut pas parler de lumière sans parler de ténèbres. Hein. Mais je pense que ça n'a rien donné. Dieu nous a tellement illuminés. Non, faites-le pas. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être ça. Ah, la technique. Est-ce que Maurice entend bien? Bon, OK. Si Maurice entend, tout le monde entend. Il va me faire signe quand je vais baisser de la voix ou que je vais m'éloigner trop et vous ne m'entendrez plus. Bon. Peut-être d'entrée de jeu, je pourrais vous dire que j'écris toujours mon texte avant et je dis au moins une ou deux choses que j'ai écrites. Mais en général, je suis assez bien. Et s'il y en a qui veulent avoir une copie Internet, parce qu'on n'a plus besoin de photocopieuse maintenant, tout le monde a l'Internet, je pense, vous me laisserez à la fin, durant la journée, votre adresse courriel, je la prendrai, je vous l'enverrai. Ou bien, plus simplement, je vais l'envoyer à Jean-Claude, qui, sur le site de Foi et Partage, je crois qu'il filme, il enregistre, donc, audio, et ceux qui veulent plutôt lire ou copier, sortir un texte, ben, je vais lui envoyer le texte qui est ici, qui correspond à peu près à ce que je vais dire. Ça marche-tu, mon frère?
Ça va finir.
On n'est pas pressé. Comme le bon Dieu est éternel, on a tout le temps. Faites un test, hein? C'est bon? Je commence? OK, let's go. Et puis, heureusement, on a notre équipe, Claire et May, qui vont nous faire un chant. Ils l'ont fait au début, on va en faire un au milieu, puis un à la fin. Si j'oublie, tu me fais une grimace, puis je vais comprendre. Mais comme je vous dis, c'est toujours un plaisir. Je ne peux pas venir à toutes les fins, à toutes les derniers samedis du mois, Foi et Partage. Lise et moi, on est des grands-parents occupés, hein, avec des petits-enfants qui ont besoin. Mais c'est toujours une joie de revenir dans cette communauté de foi et partage. Au cours des derniers mois, on partageait avec des couples qui sont à peu près de notre âge, qui ont des situations familiales semblables à nous, c'est-à-dire, eux sont fidèles à la foi reçue au baptême, mais leurs enfants, leurs petits-enfants sont éloignés de l'enseignement de Jésus. Et ça nous fait mal. Mais un jour, en lisant dans l'Évangile de Jésus, Jésus pose la question, quand il est en train de parler dans la synagogue, quelqu'un dit « Ta mère est dehors, puis tes frères, puis tes sœurs, là, ils t'attendent. Vas-tu aller les rejoindre? Qui sont mes frères et mes sœurs? » Puis là, il inclut Marie là-dedans, évidemment, d'abord et avant tout. « Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. » Alors, on se disait, lisez-moi, puis ces couples-là avec qui on partageait, dans le fond, c'est vrai, c'est notre famille. Vous êtes ma famille, nous sommes d'une même famille, de la famille de Jésus. Cette année, j'ai trouvé très beau, très bon les thèmes choisis. Hein, c'est toutes les caractéristiques sous lesquelles Jésus se présente. Vous avez eu le temps de méditer sur ces différentes facettes de Jésus, le chemin, la vérité, la vie, le serviteur, la parole faite chair, le semeur, la vigne, la pierre d'angle, l'amour, la miséricorde, et aujourd'hui, la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. On voit que les disciples de Jésus, on peut être ébloui, on peut être comme charmé profondément par personnalité de Jésus de Nazareth. C'est sûrement l'homme le plus connu de toute l'humanité. La Bible est le livre le plus imprimé à travers le monde, des millions et des millions et des millions d'exemplaires dans des centaines et des centaines de langues. D'être disciple de Jésus, un disciple, c'est quoi? Je regardais dans la rousse. Personne qui suit la doctrine d'un maître, qui suit l'exemple de quelqu'un. Quel personnage étonnant que ce Jésus. Aujourd'hui, on va essayer de l'aborder sous l'angle de la présentation qu'il fait de lui-même, qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière, pas des baptisés, là, seulement, du monde. Je vais tout de suite vous présenter un livre qui m'a inspiré beaucoup et puis que j'ai fini par acheter après l'avoir pris et lu complètement à la bibliothèque. Vous pouvez l'avoir dans toutes les bibliothèques de Québec. C'est Jésus, le maître de Nazareth, avec ce très beau portrait de Rembrandt, qui est touchant, hein? Écrit par Alexandre Maine, un homme qui est né en 35, donc à peu près comme nous tous, là, à Moscou, de l'Église orthodoxe, qui est notre Église sœur. En ce temps de l'unité, on est proche de nos frères orthodoxes, hein, puis c'est une très belle, ils ont des très belles célébrations. Prêtre de curé de paroisse, et qui a fait un écrit, que, moi je trouve que c'est le plus beau, j'ai fait ma théologie, on a étudié beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment le plus beau livre que je lis sur Jésus, tellement que je l'ai acheté, puis je l'ai lu une deuxième fois, après l'avoir lu à la bibliothèque. Je m'en inspire beaucoup, et puis s'il y en a qui veulent le regarder, puis prendre des notes, vous pouvez le faire. Donc, comme je disais, pour parler de la lumière, il faut d'abord prendre conscience des ténèbres. Attendez, je me place un petit peu. Prendre conscience des ténèbres qui nous entourent. Parce que quand on essaie de s'imaginer qu'est-ce que c'était avant la création, les premiers mots de la Bible nous donnent une petite idée. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était vague et vide. Tohu-bohu, c'est pas clair, c'est vague, c'est vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Première parole de Dieu dans la Bible, que la lumière soit et la lumière fut. Saint Jean reprend le même thème dans son évangile. Jean est un homme, un vrai israélite, un vrai observant de la parole de Dieu, de l'appel de ce peuple choisi qui est le peuple juif. Il commence son évangile exactement comme le début de la Genèse. Au commencement, les mêmes mots, au commencement, le Verbe était Dieu. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il insiste, là, à deux fois, il dit, il était Dieu. La Trinité, hein, c'est notre foi chrétienne, notre foi orthodoxe, catholique, protestante. Notre foi chrétienne, Dieu est trois. Tellement riche en personnalité que trois personnes en un seul Dieu. Tout fut par lui, etc. De tout être, il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous mangez, vous buvez, nous respirons tous, c'est la vie. Mais enlever la lumière, de quoi ça a l'air? René pourrait nous dire un peu la souffrance de ne pas voir. Heureusement qu'il y a des gens autour de ceux qui sont aveugles. Mais de penser que toute la vie, toute l'existence humaine se serait passée dans les ténèbres, c'est quasiment impensable. La vie était la lumière des hommes. On peut dire que la lumière était aussi leur vie, hein? Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'atteindre. Jamais la lumière s'est éteinte. Pourtant, on connaît tous. On est tous conscients de l'épaisseur des ténèbres dans nos vies, dans notre humanité. Quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, soit en écoutant les nouvelles ou en parlant avec les gens, on se dit, c'est pas toujours lumineux. Où en sommes-nous actuellement dans cette création de Dieu? Je regardais sur Internet, sur la foi aujourd'hui dans le monde entier, Internet, on trouve rapidement des statistiques. Sur les 7 milliards d'humains actuels, nous sommes 2,2 milliards de disciples de Jésus, de chrétiens, qui avons bu au fleuve d'eau vive, qui avons reçu la grâce de l'Esprit, grâce au baptême, grâce au Fils de Dieu. Grâce à lui, notre Sauveur et notre Maître, un tiers, donc 2,2, un tiers de la population mondiale trouve en lui la lumière sur leur pas. C'est quand même beau, il faut se réjouir. Dans ce tiers, on disait que la moitié sont catholiques, et puis donc 1,1 milliard peut-être, 37% protestants et 12% orthodoxes, comme mon ami Alexandre Mel. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je dis mon ami, je ne connais pas, mais cet homme-là, après avoir écrit son très beau livre, il a vraiment fait des recherches. C'est comme si on relit l'Évangile d'une façon, comme une biographie, c'est tellement beau. À la sortie de son presbytère en 1990, sous les yeux du KGB, la police russe, et des antisémites, des gens qui s'opposent aux juifs, suspectent aux yeux du KGB des antisémites, Alexandre Mel a été tué à coups de hache par des inconnus le 9 septembre 1990. Pour comprendre pourquoi Jésus se présente comme lumière du monde, pourquoi les évangélistes parlent si souvent de la lumière, nous avons jeté un regard sur le début de la création, les textes que je vous ai lus. Dès le début du monde, donc, comme dit saint Jean, la lumière luit dans les ténèbres, mais nous le savons, ça va quand même plutôt mal dans le monde. Ce que je viens de dire, par exemple, l'assassinat bête d'un prophète comme Alexandre Mel, et ce qui se passe, je n'ai pas besoin de vous résumer les nouvelles actuelles, là, même ce matin, c'est l'anniversaire de la révolte du peuple en Tunisie, tu viens de Tunisie? En Égypte, c'est là que ça a commencé, puis il y a encore des morts. Donc, on voit que si la lumière est dans le monde, les ténèbres continuent de lutter contre elle. Donc, dans quel monde sommes-nous? Un monde où les ténèbres continuent d'essayer d'éteindre la lumière, de lutter contre la lumière. Benoît XVI disait, en parlant de la condition humaine, disait ceci: notre condition humaine est un entrelacement entre lumière et ténèbres. Entrelacement entre sainteté et péché. Je crois qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Vous êtes tous baptisés en Jésus-Christ, disciples, fidèles, tant que vous le pouvez, honnête, etc. Mais nous sommes tous, j'ai dit vous êtes, mais je suis là-dedans, nous sommes tous lumière et ténèbres. On peut tous se reconnaître là-dedans, dans le fond. Sainteté et péché, lumière et ténèbres. L'Écriture nous dit que Jésus est lumière et qu'en lui, il n'y a aucune trace de ténèbres. Il est la source de la vérité, la source de toute sainteté chrétienne à laquelle vous visez tous, nous visons tous, nous nous sentons appelés, nous essayons d'y correspondre. Et conscient en même temps de toute la pression des ténèbres. Pendant que je composais ce texte, j'entendais les nouvelles du matin qui disaient que des familles dans les pays, je ne sais pas si c'est en Syrie ou en Libye, actuellement c'est surtout la Syrie qui, aussi l'Égypte, etc., les pays du Golfe, comme on dit, là. En tout cas, à cause des guerres et des révoltes, Des familles subissaient la faim au point d'être contraintes à manger de l'herbe et des racines. J'ai pleuré en entendant ça. Alors que nous, ici, nos frigidaires sont pleins, débordent. La nourriture est jetée aux poubelles. À Internet, on disait que le tiers des Allemands, des aliments, pas des Allemands, quand même, ça serait terrible pour eux autres, le tiers des aliments produits chaque année dans le monde sont gaspillés. 1,3 milliard de tonnes de nourriture est jetée aux poubelles, gaspillées selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et les Nord-Américains, nous autres, sont les champions de ce gaspillage. Nous jetons 260 livres de nourriture par an par personne. Pendant ce temps, en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire pas autour du Golfe, mais sous le Sahara, le chiffre de gaspillage par année, savez-vous combien de livres chaque personne, parce qu'il y a quand même de la perte dans la nourriture, c'est pas qu'on le jette toujours quand c'est bon, là. Il y a 13,5 livres seulement par année par personne, nous il y a 260 livres. Une livre par mois pour eux autres, nous autres, divisé 260 par 12. Voilà un scandale épouvantable, par exemple, un des signes de la pression de la ténèbre qui pèse sur nos consciences. Les disciples de Jésus que nous sommes n'ont pas la conscience tranquille à notre époque. Si vous l'avez tranquille, venez jaser avec moi, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. À notre époque où les nouvelles circulent à une si haute vitesse sur les ondes, hein, le pape a raison de parler d'un temps d'entrelacement. J'aime l'expression entrelacement. Tu ne peux pas couper ça au couteau. Hein, on est tous un peu des deux bords, là. Entrelacement entre lumière et ténèbres. Bon, on pourrait ajouter beaucoup d'autres traces de péché. Je vais mettre ma montre parce que là, je ne veux pas trop dépasser le temps. Je trouve ça drôle. tout ce qu'on pourrait... On parle du scandale du péché, même des personnes au service de l'Église, même des gens honnêtes qui ont tout leur petit côté, des catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, crimes de toutes sortes, assassinats, meurtres des membres de leur propre famille, de plus en plus, hein, c'est... Gagne de rue, guerre entre les peuples, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que chacun de nous, on vit tous ces conflits-là, là, qu'on est dans des situations de guerre ou de famine, mais parce que nous avons cru aux paroles de Jésus, nous sommes d'autant plus sensibles aux cris de son peuple, à la douleur de nos frères et sœurs en humanité. Et je pense que l'expérience de foi et partage et de l'arche et de tout ce regard de foi sur l'appel de Jésus que nous avons appris à la suite du grand prophète qui est Jean Vanier, nous a appris à voir la douleur de nos frères et sœurs en humanité. Comment maintenir notre foi? Comment traverser cette terrible épreuve? Comment cultiver l'espérance quand plusieurs de nos contemporains, même de nos familles, ont cessé de croire à Dieu à cause de ces situations scandaleuses? On reçoit de temps en temps des lettres d'un cousin, d'une cousine, d'un beau-frère qui nous dit « Votre Église catholique, là, vous devriez vous ouvrir les yeux, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, les scandales, ben oui. On est tous entremêlés là-dedans, c'est sûr. Et comment traverser cette terrible épreuve? Comment adorer, comment garder la joie, comment cultiver l'espérance et être des croyants croyables. Alors, c'est un peu le thème que je veux regarder, là. Être des gens qui, lucides, mais remplis d'espérance. Comment cultiver cette espérance et être des croyantes et des croyants croyables. Alors, j'ai divisé ça en trois sous-thème. Pour cultiver cette espérance et être croyable, cela demande d'abord... Je me suis inspiré de livres, hein, c'est pas venu juste dans mon esprit, là. Vous avez peut-être vu... vous allez peut-être voir des liens avec des réflexions aussi écrites ou parlées. Comment cultiver cette espérance? D'abord, un, prier ce Jésus, notre lumière, c'est-à-dire adorer. Première chose, je crois, c'est se mettre en adoration. Ce n'est pas pour rien qu'à foi partage, avec la parole, il y a l'adoration. Partout, depuis le début de foi partage, Vanier nous invitait toujours à ce qui est une petite chapelle, un petit coin, un petit oratoire avec la présence de l'Eucharistie. Adorer. Deux, dans la louange, retrouver sans cesse la joie. Ça, c'est important. Benoît XVI disait « être des serviteurs de la joie ». On a un pape qui est très inspirateur. Hein? Deux. Trois, une chose que je trouve importante, regarder les saints, nos modèles, des copies du Christ, pour, comme eux, devenir des êtres de communion, des témoins de la joie et des êtres de communion. Je m'inspire beaucoup ici en parlant d'être des hommes et des femmes de communion, des vieux et des jeunes de communion, de joie, de Thésée. Thésée. Vous connaissez Thésée? Qui ne connaît pas Thésée? Levez le doigt. Bon, alors je n'ai pas besoin de vous expliquer. Il n'y a personne, il y a vice. Elle a ses peignets, mais je pense que tu connais aussi. Elle dit oui, oui. Alors, Thésée, cette belle petite communauté dont Jean 23 disait, c'est une communauté protestante, qu'on pourrait dire, rattachée plutôt à la réforme des luthériens, parce que le frère Roger Schutt, qui a été lui aussi assassiné d'ailleurs dans la belle église de Thésée, là, était un pasteur luthérien. Il y en a-t-il qui sont déjà allés à Thésée? C'est quelque chose, hein? J'étais allé une fois, on était à l'Arche en France, puis on a fait un petit croff à Thésée. On sent la lumière, là, puis on sent la force, le dynamisme des jeunes, puis leur joie. Hein? Donc, je commence avec cultiver l'espérance. Comme je disais tantôt, Benoît XVI parle de l'antidote au désespoir, qui est l'espérance. Je ne vais pas vous faire un discours sur l'espérance, je vais juste vous lire un poème de Peggy que plusieurs d'entre vous connaissent sur la petite sœur Espérance. C'est tellement beau que je vous le lis. Et puis, si je suis ému, ben je vais arrêter tranquillement. Puis, vous autres aussi, vous pouvez vous moucher. Je vais juste vous lire ça tranquillement, pas vite. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création que c'est facile de croire, dans le fond. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Ça, c'est étonnant que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux et qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Et on peut étonner Dieu par l'espérance et le fond, hein? On a du pouvoir sur lui un peu. Il faut, continue à te dire Dieu, il faut en effet que ma grâce soit d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source comme d'un fleuve inépuisable. La petite espérance, elle s'avance entre ces deux grandes sœurs. Tu vois la petite entre la foi et la charité, hein? Elle s'avance entre ces deux grandes sœurs. Et on ne prend seulement pas garde à elle. On voit la charité puis la foi. Ça, c'est des grandes filles. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, dit Dieu, sur la route interminable, sur cette route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi voit ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est. Elle voit ce qui sera. La foi voit tout ce qui est dans le temps et l'éternité. L'espérance voit ce qui sera dans le temps et l'éternité. Pour ainsi dire, elle voit ce qui sera dans le futur de l'éternité même. Fin de la citation. C'est très beau. Si vous avez l'Internet, vous avez juste à taper « Petite espérance » ou « Petite fille espérance » ou bien « Charles Péguy », vous allez trouver ça dans 5 minutes. C'est là que vous allez trouver. C'est un très beau poème sur l'espérance. Ça serait bon de pouvoir fouiller un peu qui était ce Charles Péguy. C'était un homme, c'était pas religieux, de ce point un prêtre, le procuriste, était un pauvre homme. Hein? Mais quelle profondeur, quelle facilité d'exprimer des belles choses. Donc, première chose, comme je disais, cultiver l'espérance, c'est antidote au désespoir. Bon, comme vous voyez, là, j'ai déjà été professeur, premier point, deuxième point, troisième point. Un peu comme notre ami Pierre-René Côté. Deuxième point, être des croyants croyables. Souvent, ceux dans nos proches, dans nos familles ou dans notre entourage qui ont déjà, qui ont reçu à peu près la même éducation que nous, là, dans les années 50, 60, 70, 80, et qui ont tout balancé, ils vont nous dire que c'est parce qu'on n'est plus croyable. Parce qu'on leur a prouvé que tout ça, c'est de la bullshit, comme on dit en Ontario, de la chenoute. Parce qu'on est tous pécheurs, dans le fond. Fait, arrêtons de dire qu'on est baptisé puis sauvé par Jésus. On n'est pas mieux que les autres. Puis c'est vrai qu'on n'est pas mieux que les autres. Mais Thérèse, l'enfant Jésus, dirait, ben, c'est à cause de ça que Jésus nous aime, justement. Et Thérèse, l'enfant Jésus, ça n'est une lumière, ça, qu'il faut regarder. Thérèse, l'enfant Jésus, François d'Assise, ces petits qui sont des grandes âmes. Il y a les petites âmes de Thérèse, mais je pense que c'est une grande âme qui dit, moi, j'ai choisi de m'asseoir à la table des pécheurs. Thérèse qui dit, j'aurais voulu être comme Marie-Madeleine. Hein? T'aurais voulu être prostituée? T'aurais voulu être une fille de lui? Non! Elle dit, j'aurais voulu être si pauvre, si en manque, si pécheresse, que la miséricorde de Dieu me fondrait dessus, comme sur Marie-Madeleine, dans le fond. Alors, être des croyants croyables comme ces saints, on en parlera un petit peu plus loin des saints, je comparerais ça à des panneaux solaires qui captent la lumière du soleil. Aujourd'hui, ils doivent être en train de se charger leur batterie pas mal fort, hein, avec le beau soleil. C'est fantastique, ces panneaux solaires. Ils captent la lumière du soleil, ils la transforment en énergie électrique et ils la redonnent sous forme de son, avec une radio, une télévision, sous forme d'image, sous forme de lumière, de chaleur, etc. Donc, être croyant, croyable, c'est d'abord capter la lumière. Comme les panneaux solaires, donc, nous captons dans l'adoration l'Esprit du Seigneur, sa lumière inépuisable d'amour, pour la redonner. C'est quelque chose de beau qui se passe dans nos paroisses, beaucoup de paroisses dans le diocèse, peut-être aussi dans d'autres aussi, que depuis quelques années, que l'ouverture de chapelles d'adoration, c'est quelque chose, ça. Ils sont fréquentés, hein? Bon, je ne dis pas qu'il y a 30-40 personnes qui s'empilent à toutes les heures, mais dans notre petite paroisse de Saint-Thérèse-de-Lisieux, en tout cas, même parfois la nuit, les gens ont une clé, ils peuvent aller à la chapelle d'adoration. Nous laisser être des panneaux solaires qui captent l'adoration. Vous vous souvenez tous, vous connaissez tous cet épisode du Saint-Curé d'Ars, hein? Je sais pas, mais je vais vous le raconter quand même, là. C'est le curé d'Ars, voyons, ça se voit, excusez. Le curé d'Ars qui, quand il passait devant l'église le matin, ou l'après-midi, je pense que c'est ça, l'après-midi, il voyait un vieux paysan qui revenait des champs, puis qui arrêtait l'église, la porte était tout en vert, puis à genoux en arrière, puis qui ne disait rien. Le curé, il voyait, puis là, à un moment donné, il va demander qu'est-ce qui se passe. Écoute, pouvez-vous bien me dire qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous êtes là? Paysan, dans son langage du temps, là, il parlait en vieux français, il dit « Je l'aveuse et il m'aveuse ». On traduit en québécois français « Je l'avise et il m'avise ». C'est-à-dire, aviser pour eux, ça veut dire « Je le regarde, puis il me regarde ». Il ne faut peut-être pas trop se compliquer la vie pour entrer dans cette relation particulière de silence, de se laisser inondé par les rayons lumineux de Jésus, qui est lumière. Jésus dit, Alexandre Maine dans son beau livre, j'ai pris mot à mot ce qu'il dit ici, vous l'avez dit, Jésus est prophète. Il est le maître dont les traits essentiels sont la clarté et le bon sens. J'aime ces termes simples pour parler de l'espèce de luminosité du langage de Jésus, ses paraboles, ses vers, la clarté et le bon sens. Il sait discuter simplement avec les gens à côté d'un puits ou à une table de fête, mais il peut aussi prononcer des paroles qui laissent tout le monde bouche bée. Je vais vous en citer une, puis moi, chaque fois que je la lis, je suis bouche bée encore aussi, comme ses disciples. Il dit à un moment donné, « Je suis le pain de vie. » C'est sûrement une des paroles les plus énigmatiques, les plus au-delà de toute compréhension intellectuelle facile que nous avons. D'ailleurs, notre foi en l'Eucharistie que les catholiques, les protestants ont, puis les catholiques en particulier, ça a toujours été central, c'est un point lumineux central dans notre foi, que nous sommes devant Jésus lui-même, dans ce petit morceau de pain-là. Demandez-moi pas de vous l'expliquer, demandez-moi pas de vous dire si j'y crois aussi facilement que je crois que le soleil brille aujourd'hui. Là. C'est un grand mystère. Je suis le pain de vie. Donc, il peut prononcer des paroles qui nous laissent bouche bée tout en étant si simple, plein de clarté et de bon sens. Il parle, Jésus parle de lutte et d'épreuve, mais partout, dit Alexandre Maine, il porte la lumière, la bénédiction. Il transfigure la vie. Transfigurer, là, c'est pas compliqué. Éteignez lumière, on est la nuit, il fait noir, on voit rien. La lumière, on allume les lumières et on voit les figures. Hein? On voit la vie. C'est juste ça, avoir les yeux ouverts puis voir. D'être sensible à la lumière. Jésus transfigure la vie. Si Jésus, lui, est la lumière du monde depuis le commencement du monde jusqu'à son retour en gloire, qui, j'espère, arrive, là, c'est pas arrivé le 21 décembre 2012, mais ça va sûrement arriver quand même, on ne sait pas quand, mais si Jésus est la lumière, nous sommes Christophores. J'avais pas écrit ça, mais ça me vient, tout à coup, doit être l'esprit. En grec, Christos c'est Christ, phare, ça veut dire qu'il porte. Nous sommes des portes-lumières, nous sommes des flambeaux, nous sommes des portes-lumières, nous sommes des réflecteurs, nous sommes des capteurs. Essayez de prendre les mots qu'il faut. On est sensible, plus que sensible, mais récepteurs de lumière. Venez ouvrir mes panneaux solaires. J'en ai jamais vu, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est ça, ils captent la lumière. Dans le fond, je sais comment ça fonctionne parce que régulièrement, on va se promener dans le parc, le terrain de camping à Beauport, allez-y, là, c'est sur le bord de la rivière Montmorency, c'est très, très sauvage. La forêt sauvage, et tu as des grands arbres. Moi, il y a un pin, là, je ne peux pas faire le tour dans mes bras, je pense qu'il y a 200 ans, là, un grand pin. Là, je regarde toutes ces petites épines, puis je regarde les érables avec le grand feuille. C'est ça, des capteurs de lumière, je pense. Hein? Éteignez le soleil, tout ça va sécher, puis va s'écrouler, va pourrir. Les arbres sont des capteurs de lumière. On pourrait peut-être être comme des arbres. Hein? Ah, il y a un passage dans l'Évangile qui parle des arbres. Est-ce que quelqu'un se souvient et peut me dire lequel? Il y a un passage dans la Bible où il y a un homme qui dit « Je vois comme des arbres qui marchent. » L'aveugle. L'aveugle qui dit « Vous vous souvenez de ça? » Bien sûr, M. Breton s'en est souvenu tout de suite, parce que tu prêches souvent sur l'Évangile. Et c'est que Jésus vient de guérir un aveugle. Je pense que c'est celui où il a mis la boue sur les yeux, hein, c'est ça? En tout cas. Puis là, il commence à voir. Puis là, Jésus, il dit, qu'est-ce que tu vois? Bien, il dit, tu vois, il dit, comme des arbres qui marchent. Probablement qu'il a déjà serré un arbre dans ses bras, là. Essayez ça, ça fait du bien. Hein. Ou qu'il s'est cogné le nez sur un arbre, mais en tout cas, c'est debout, c'est vertical, donc ça marche. Je vois comme des arbres qui marchent. Alors, les arbres capteurs de lumière, on pourrait être... Est-ce que si chacun des membres de Foi Partage, puis probablement que c'est comme ça, là, assis ou debout, puis marcher, là, si chacun de nous, on capte un peu de lumière, puis ça reflète, voilà, on est fidèle à notre vocation d'être porte-lumière, d'être Christophore. Nous sommes donc lumière, nous brillons aux yeux du monde en reflétant aux yeux des hommes et des femmes qui nous entourent la nature même du Christ. Ben, du moins, il devrait en être ainsi. Je me souviens quand, je ne sais pas, c'était étudiant en théologie, on parlait d'un vieux moine. Tu sais, ces moines solitaires, là, soit en Russie, soit même aussi en Occident. Les vieux sages. Puis ils ont toujours été, comme Saint Antoine Abbé, Saint Paul Hermé, tout ça, ils ont toujours été entourés de disciples. Puis il y a un disciple qui disait aux vieux moines, là, aux vieilles irigoumènes, je pense qu'il appelait ça en grec, il disait, je veux voir Dieu, un peu comme Thérèse, je pense qu'il a ça, je veux voir Dieu, montre-moi Dieu. Le vieux moine bien dit, regarde-moi. De fait, la plus belle image de ce que peut être Dieu, c'est un visage humain. Hein? Surtout quand il y a à peu près 2 ou 3 mois d'existence, puis qui, tout ce qu'il sait faire, c'est sourire, brailler, puis salir sa couche. Hein? Moi, chaque fois, puis vous autres aussi, quand on voit un enfant, il y a quelque chose de divin là-dedans, tu sais. D'être des porteurs de la lumière de Jésus. Nous recevons la vie dans l'Eucharistie. Jean 6. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 33. Je suis le pain vivant, dit-il. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Le pain est donc comme présence, parole de Dieu, lui qui s'est offert victime sur la croix avec son corps eucharistique, qui nous donne son corps eucharistique. C'est un grand mystère, l'Eucharistie. Hein? Ici, à Foi et Partage, d'ailleurs, on ne fait jamais une journée de Foi et Partage, comme aujourd'hui, sans communier à la table de la parole, ensuite à la table du pain, qui est la même table, celle-ci. C'est presque malgré nous, en étant des communiants, des eucharistiers, nous qui appartenons à nos frères et nos sœurs, pardon, j'ai mis appartenons, c'est pas ça, nous qui apporterons, pardon, à nos frères et nos sœurs une lumière sur leur pas, c'est presque malgré nous qu'on le fait. Et on est comme une réponse à leurs interrogations, une paix dans leurs angoisses. Je racontais tantôt, je pense que je ne l'ai pas raconté à tout le monde, hein, je disais que cette semaine, Lise est allée conduire Johan, notre fils de 18 ans, qui, bien sûr, la messe, tout ça est con. Il n'a pas reçu le message, tu sais. Bon, ils ont jasé en s'en allant, puis Lise, ça doit être. Qui aidait les élèves à trouver leur chemin à l'école polyvalente, là, l'aidait à trouver son chemin de vie, tu sais, à 17-18 ans, il dit, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, vas-tu juste jouer de la musique, ou bien, lui, il fait du BMX, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, sur un bicycle qui a juste 2 pédales, il n'y a pas de break, puis il monte sur des espèces de sauts, puis là, son désert dure à peu près 5 minutes, non, pas si longtemps que ça, puis il retombe à peu près sur leur pattes. Chaque fois qu'il arrive chez nous, là, regarde, grand-maman, j'ai une nouvelle blessure ici, il a plus, ah, montre-moi pas ça! Alors, il y a une bonne relation entre les deux, une bonne chimie. Alors, elle est allée conduire il travaille dans un restaurant maintenant, il débarque, il s'en va, puis là, il vient, puis il frappe à la porte, elle baisse la vitre, il dit, grand-maman, continue de prier pour moi tous les jours, j'ai besoin. C'est ça, être. C'est malgré nous autres, dans le fond. Hein? C'est presque malgré nous que nous apportons la lumière à nos frères et nos sœurs. Une chance que j'ai le texte, ça passe en source, partirait dans n'importe quoi. Il ne s'agit pas pour nous de nous prendre pour des croyants qui ont réponse à tout. Ça, c'est important, là. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas besoin de se forcer. Hein? Je pense que c'est difficile de dire j'ai réponse à tout, là, venez, moi, j'ai lu l'Évangile, puis j'ai communié un matin, là, j'ai des réponses. Non. Nous avons aussi besoin d'entendre les autres. Nous avons besoin de recevoir la lumière. Pourquoi qu'on se réunit ici aujourd'hui, là, si ce n'est pas pour ça? Nous, nous avons aussi nos heures où on dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il faut qu'on soit comme provoqué, comme aiguillonné par les ténèbres, nous aussi, dans le fond. Nous avons nos périodes où, comme Job, ça nous tente d'interroger Dieu, poser des questions profondes, métaphysiques, de crier notre souffrance et celle de nos proches, parce que la souffrance et le mal sont trop durs. On a tous des bouts où on passe, puis probablement qu'on a tous des bouts aussi où quelqu'un est en train de le passer, puis il vient broyer sur notre épaule, puis on peut dire, on peut donner de l'espérance. En fait, les disciples de Jésus souffrent autant et même plus que les autres humains. Ça, j'en suis sûr. Il y a une sensibilité, je pense. Nous sommes plus sensibles à la souffrance parce que, en nous approchant de Dieu, on nous approche d'un crucifié. On s'approche d'un crucifié, hein? D'un qui a dit portez votre croix. D'un qui a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis qui a dit aussi à nous, au bon larron, au larron, on vous dit, tu seras avec moi dans le paradis, mais en attendant, on meurt. Hein? Pourquoi est-ce que je peux dire que notre cœur est plus grand ouvert, qu'on est plus sensible? Peut-être aussi parce que l'amour s'éveille en nous par la fréquentation de Jésus, de sa parole. Être lumière pour notre entourage, c'est tout simplement montrer que nous sommes croyants, malgré tout ce qui semble nier que Dieu est amour, le tsunami. Je suis allé voir le film Impossible. Allez voir ça. Tu sors de là, tu dis, Dieu existe-t-il? Je me souviens que l'archevêque de Canterbury, justement, comme le pape, si vous voulez, des Anglicans, suite au tsunami en 2008, je trouve, disait, j'ai douté de Dieu. Heureusement, il a mis ça au passé, là, mais on est sensible à toute cette ténèbre. C'est se montrer, malgré tout, ce qui semble nier que Dieu est amour. Nous sommes assurés que l'œuvre rédemptrice du sacrifice de Jésus continue malgré tout ça, là. Tout ce qui se passe ce matin ou hier, en fait, ils sont avancés sur nous. On évite actuellement qu'ils s'élèvent encore dans la douleur, la révolution qu'ils ont pensé réussir, mais qui n'est pas réussie, hein, etc. On est sensible, mais on sait qu'à travers tout cela, à travers les douleurs d'enfantement de l'humanité, Jésus agit mystérieusement. Cultiver l'espérance, donc, et être des croyants croyables. Si on sentait, petite pause, on me fera du bien. Ce très beau refrain. Comment est-ce qu'on appelle ça en réalité, ce type de chant, Claire? C'est des
pas des mantras, là, ça a l'air trop anyway. Oui, c'est des chants de tes airs, c'est des refrains qu'on reprend. Puis c'est facile à retenir, tu sais, c'est une répétition. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a un qu'on chantait, je pense que vous étiez là quelques-uns, là, lors du congrès eucharistique, dans la chapelle d'adoration, là. Jésus, je t'adore, tout le monde. Un truc pour adorer et pour méditer, la plupart d'entre nous, en tout cas peut-être un ou deux personnes dans la salle ici, parfois se réveillent la nuit. Qui se réveille pas la nuit? Ben non, la main. Jamais. Bon, alors, moi, un truc que j'ai pris, puis ben, je vous le suggère, c'est de me mettre à murmurer, pas trop fort, pour pas que l'île se réveille, là, puis à son tour, faut pas qu'on réveille, non. De murmurer ces refrains de prière. Tu sais, tu peux tourner ça dans ta tête, même avec l'air, puis... Puis quand je me réveille la nuit, ben, j'aime pas toujours ça, je me dis, je vais être fatigué demain matin, mais je me le dis toujours, je me rappelle qu'il est dit souvent dans l'Évangile que Jésus se levait la nuit pour prier. Bon, ben, je me dis, je n'irai pas me promener dans le bois, là, à moins 30, mais au moins de le dire, Jésus, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, ça ne paraît pas toujours. Mais moi, je la vois dans vos yeux. Deuxième chose, donc, prier ce Jésus comme lumière, c'est-à-dire adorer. J'en ai déjà parlé, marqué, là, c'est pas tranché au couteau, hein. Là, c'est une partie où je me suis inspiré de l'abbé Pierre. J'aime beaucoup l'abbé Pierre. Qui ne connaît pas l'abbé Pierre? Mon Dieu, qu'on est connaissant. Tout le monde connaît ce que je connais. Moi, j'en aime beaucoup parce que j'ai été un bout de temps chez les Capucins, puis je sais qu'il aussi a été chez les Capucins, l'abbé Pierre, puis c'est celui qui s'occupait beaucoup des plus pauvres, des gens de la rue qui n'avaient pas de maison. Et puis, il ramassait, ils appelaient compagnons, chantier d'Emmaüs, ils appelaient ça chantier d'Emmaüs, puis il dit, venez les boys, on va trouver du bois, puis on va aller dans les dents, puis n'as-tu qu'un marteau, ici, bon, amène-les, puis on va se bâtir des maisons. Puis il se bâtissait des maisons, puis il est devenu... député à l'Assemblée nationale de Paris, n'est-ce pas? Il était député un bout de temps. C'est un homme qui a eu une très grande influence dans le monde, en France. Puis il a influencé beaucoup aussi le père Joseph Rezinski, qui a fondé Entité Carmonde. Quand j'étais à l'Arche, on avait eu une réunion à Courchevel, je pense, on n'était pas n'importe où, là, avec Vanier, Mme Vanier, tout ça. Puis il avait invité, c'était quasiment deux mois là, de session là, sur la formation des directeurs de l'Arche. Puis, il avait fait venir le père Rezinski, dans Tédé Carmont. Il nous avait expliqué un peu ce que c'était. Ça prend comme le relais aussi. Il y a tellement de belles choses comme ça qui sont des signes que la lumière passe, que les arbres poussent. La foi chrétienne est verdoyante ici au Canada, au Québec, aux États-Unis. Je pense à comment qu'elle s'appelle aux États-Unis, une femme extraordinaire qui appartient au journal qu'elle vendait à une scène, là, à Saint-Saëns. Dorothée D., laïque, en tout cas. L'abbé Pierre. Donc, alors, je m'inspire de la profondeur de réflexion de l'abbé Pierre sur l'adoration. Il dit mieux que moi ce que je vous le dis tout simplement. L'adoration n'est pas du tout étrangère à nos soucis, à nos interrogations inquiètes. Comment être en adoration si nous ne sommes pas en même temps blessés, inquiets de tout ce qui est souffrance autour de nous dans le monde? Finalement, il dit, ça ne serait même pas possible d'adorer si tu n'es pas inquiétant. Mère Teresa, la grande sainte de notre temps, ça c'est moi qui l'écris, hein? J'ai entendu encore cette semaine à la télé, Mère Teresa écrivait à son confident spirituel, tenez-vous bien, tout en moi est froid, glacial et ténèbre. Au fond de moi, il n'y a que l'obscurité. Elle avoue avoir même douté de Dieu, de sa bonté miséricordieuse.
Comment adorer si nous ne sommes pas conscients de tous les efforts que nous devons faire pour les tâches que nous avons à accomplir? Être conscient aussi de toutes les délivrances dont nous avons besoin nous-mêmes et d'autres tout autour de nous. Plus nous ouvrons nos yeux et nos cœurs à la misère humaine, aux victimes blessées par la maladie, les malheurs, les déchirures entre couples, entre générations, entre pays, plus il nous faut traverser les épaisses ténèbres en tournant notre cœur, nos yeux, nos pensées vers la source. Comme dit l'abbé Pierre, s'agenouiller devant la source d'eau et dire à Jésus, « J'ai soif, donne-moi la force de croire, d'adorer, d'espérer, d'aimer. » La force de durer, d'endurer. C'est le même mot, hein? Voilà, je pense, la première condition pour entrer dans l'adoration. S'agenouiller devant la source. L'adoration est à la fois parole et silence. C'est un silence qui est plein, qui est lourd parfois, qui est porteur de tous les gémissements qui sont en nous et autour de nous. Elle ne devient pleinement prière que si elle est pour l'essentiel une présence muette mais intense, une présence intense, confiante, paisible comme le bon vieux paysan du curé d'Ars. Et on pourrait ajouter une des phrases d'un psaume, je ne me souviens pas lequel, « Comme l'enfant dans les bras de sa mère. » Quand on est rassuré par papa et par maman, là, on a moins peur. Et je me souviens, j'ai dû raconter quelque chose que j'ai vécu tout petit. On était seulement 6 enfants à ce moment-là, là, dans la maison. Il y a une grosse famille pas mal, là. Et puis, une grande maison, 16 pieds par 16 pieds, 2 étages. On était pauvres. Et puis, on n'avait pas de châssis double. Aujourd'hui, c'est tous les châssis sont doubles, mais on n'avait pas de châssis double. Puis, peut-être qu'il manquait un peu de mastic dans une des vitres. Alors, on couchait tout le monde au deuxième étage. Et puis, une nuit, je me rappelle, c'est comme si c'était hier, il ventait, puis une vitre s'est mise à vibrer. Là, j'ai paniqué. Il faisait noir. S'il avait fait l'air, j'aurais peut-être pas paniqué. Il faisait noir, paniqué. Puis là, j'ai probablement pleuré. Puis papa, qui était couché proche de la fenêtre, il a vu le temps de son bras, il a mis la main sur la vitre, puis ça l'a arrêté de vibrer. Ça m'a rassuré. L'adoration, c'est d'être comme les bras, un enfant dans les bras de son père ou des bras de sa mère. C'est de se laisser rassurer sur ce qu'on endure, ce qui nous fait peur. Sachons comme Jésus, en fait, je dis adorer, mais c'est prier aussi, là. Sachons comme Jésus le faisait, avant d'accomplir les tâches de la journée, nous exposer à la prière, nous exposer ainsi à la lumière qui va nous donner l'énergie pour la journée. Peut-être dans une prière simple, prière d'amour comme ceci, « Merci Seigneur, nous te disons merci pour la splendeur que tu es. » Inventez votre ritournelle, votre façon de jaser avec Dieu, pour jaser avec lui. « Merci pour la lumière que tu es. Merci parce que je suis sûr que tu vas être là si je n'ai besoin. » Chacun peut trouver dans la simplicité les mots qui montent en son cœur pour parler à Dieu. Je pense que c'est peut-être ça. L'Esprit Saint qu'on a reçu à confirmation, puis qu'on a vu lui demander, il vient, claque des doigts, puis il vient. Puiser à la lumière du Christ pour ne pas laisser la tristesse s'installer dans ma tête et dans ma maison. Puis on va peut-être pouvoir avoir cette grâce qu'avait François d'Assise. Il m'a toujours ému, François d'Assise, par son cantique des créatures, hein, que tout le monde connaît. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère soleil, pour notre sœur la lune, pour mon frère le vent, pour ma sœur la pluie, etc. 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 » Saviez-vous que François d'Assise, quand il a écrit ça, il était probablement couché sur son lit de grand malade, probablement proche du couvent des petites sœurs de Sainte-Claire, de Sainte-Claire elle-même. C'était à la fin de sa vie. Et Claire savait que Il souffrait parce que il y avait déjà 5000 frères dans l'ordre, puis là, il y avait Frère Élie qui avait pris le contrôle de ça, puis il s'attirait d'un bord puis de l'autre, puis bon, il disait, « Saint François, il était trop sévère, on va adoucir la rigueur. » Il avait mal. Et en plus, il avait reçu les stigmates. Ça fait mal, ça, il paraît. Hein? S'il y en a qui ont les stigmates ici, là, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas. Et il est, à force de pleurer sur... sur lui-même, dans le fond, il avait les yeux brûlés, il était rendu aveugle, presque. Alors, ce qui est étonnant dans la foi en Jésus, d'être connecté à la lumière du Christ, c'est que même aveugle, tu peux chanter la beauté du soleil, la douceur de la pluie, la force du vent. François l'a fait, Thérèse l'a fait, tous les saints l'ont fait, je suis sûr que Jean-Paul II l'a fait. Je suis sûr que Mère Thérèse l'a fait. Tu sais, quand elle dit, il y a tellement de souffrance que j'ai de la misère à croire en Dieu, Mère Thérèse elle-même, tu sais, tu te dis, on n'est pas spécial. Et quand on se dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que tout ce que j'ai donné à mes enfants, mes petits-enfants, de tout ce que j'ai fait pour leur faire connaître Jésus, pourquoi que ça ne colle plus? Ça fait mal tout ça, hein? Ça brûle les yeux et la lumière entre quand même. Loué sois-tu, mon Seigneur, j'en ai copié un petit bout, là, avec toutes tes créatures, spécialement pour Messire Soleil, par qui tu donnes le jour, la lumière. Il nous offre le symbole de toi très haut. Pour nos sœurs, les étoiles, pour Frère Jean, pour l'air, les nuages, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit, et pour notre sœur, notre mère, la terre. Amen. Troisième point. Dans la louange, retrouver sans cesse la joie. Oups, ça fallait que j'aille loin, parce que le méchant Jean-Claude me dit, c'est correct. Il me demande 5 minutes, il va vous en donner 10. Non, on va aller vite, Jean-Claude, ne t'inquiète pas. Je vais vous lire juste un petit bout encore de cette fameuse belle communauté de Thésée, où ils disent « Prier, adorer, faire monter notre louange vers Jésus, c'est pas compliqué. La joie du Christ ressuscité, l'Esprit-Saint, la dépose cette joie au fond de notre être. » L'autre point que je trouve bien important, c'est de regarder les saints, nos modèles, des copies du Christ. Jésus, lumière, signifie que c'est lui la véritable source sainte où on peut puiser l'espérance dont on a parlé tantôt, aussi l'énergie, la force d'amour, de miséricorde dont on a besoin pour nous-mêmes et pour les autres. Et je pense que c'est important de plus en plus. Puis je pense que les derniers 10-15 ans qu'on est passé, avec Jean-Paul II surtout, là, on a comme pris conscience de l'importance des saints. Ici au Québec, on en a eu plusieurs canonisés par Jean-Paul II. Hein. C'est important de regarder ces flambeaux, peut-être pour le devenir un petit peu nous autres aussi. Tous les saints, à partir de Saint-Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, la Marie-Madeleine, Thérèse, enfant Jésus, tous nos saints et saintes, il y a plein de saints qui nous entourent, des saints ordinaires qui en arrachent, mais qui gardent l'espérance, la joie patiemment. Devant moi, la salle en est remplie. Salut. J'ai besoin de vous regarder de temps en temps. Faites du bien. De regarder ces témoins de la foi autour de nous. Et de devenir nous-mêmes des témoins de la communion. On sait bien que le seul chemin du bonheur, les gens autour de nous ont des recettes de bonheur, puis mon d'où que ça flambe souvent. Hein? Le paraître, le glamour, le passer à la télé, embarquer dans la société de consommation qui nous dit voici la recette du bonheur, voici la recette du bonheur. Ça tourne en boucle dans nos annonces à la télévision. Non. Pour nous, le chemin du bonheur, en regardant sur tous ces témoins-là, c'est pas ça. C'est de regarder Jésus, puis c'est de venir, de s'arracher au froid, puis à la belle journée du samedi où on ne va pas travailler, puis de venir à foi et partage. nos groupes de prière, nos communautés, des lieux où on se retrouve pour vivre la bonté du cœur et la confiance, où nous nous accueillons mutuellement, où nous cherchons à comprendre et à soutenir l'autre, lieu où on est attentif aux plus faibles, puis aux plus forts aussi, parce que les plus forts sont souvent les plus faibles, et à ceux qui ne sont pas de notre cercle habituel, à ceux qui sont un peu comme nous, là, des pauvres qui ont besoin de sentir dans la chaleur de la communion et la joie. À travers nos œuvres de communion, donc dans la joie, fort de l'espérance, dans l'adoration, et avec persévérance, Jésus accomplit son œuvre, il accomplit son œuvre à travers nous, d'illuminer le monde et de repousser les ténèbres par nous. Et je termine en vous rappelant encore que cette belle parole de Benoît XVI, que il y a un entrelacement entre ténèbres et lumière, entre sainteté et péché. Et puis, ce qu'on recherche, c'est la lumière. Il ne s'agit peut-être pas trop d'entrer en lutte active contre... Il y a des groupes, surtout les évangélistes des États-Unis, là, qui partent là à dénoncer les péchés des autres. C'est pas ça, je pense, que Jésus nous demande. T'sais. Non, c'est juste d'illuminer un petit peu les choses. Séraphin de Sarov, un autre moine russe, comme Alexandre Mène, qui a lui aussi d'ailleurs été assassiné, il me semble, Séraphin de Sarov. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Séraphin de Sarov, donc moine du 19e siècle, écrit « Acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut. » C'est beau, hein? Ça dit, écoute, là... Tu souhaites d'évangéliser le monde, de communiquer cette lumière, acquiert la paix intérieure. Et des milliers autour de toi trouveront le salut. Et je termine avec ce que écrit à la fin de son livre Alexandre Moine. Men, M-E-N, comme homme en anglais. Facile à trouver ça dans toutes les bibliothèques du Québec, ils vont vous faire venir là où vous allez. Il dit, et c'est la fin. Dans l'autre, t'inquiète pas, c'est la fin. Il parle tellement mieux que moi que je vous le cite. Le Dieu qui s'est fait homme sur terre montre aux hommes et aux femmes leur sublime vocation. Il rend sacrée et spirituelle la nature humaine, y jetant une semence d'immortalité. En sa personne, le Créateur éternel et impénétrable s'est fait proche de nous, et la vie se remplit de joie, de beauté et de sens. Le silence terrible des abîmes n'existe plus. Tout est comblé par la lumière du Christ, par l'amour du Père. Mais il ajoute quand même, parmi le fracas de notre époque technologique à la fois si puissante et si pauvre, notre société, notre civilisation technologique est vraiment pauvre dans sa puissance. Parmi le fracas de notre époque technologique à la fois si puissante et si pauvre, Jésus, apprends-nous une prière. Jésus, apprends-nous à tendre l'oreille pour écouter le silence de l'éternité. Donne-nous d'y entendre ta voix, qui nous redonne courage encore aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.